Avoir raison avec Rosa Luxembourg. Théoricienne du socialisme et dirigeante du mouvement spartakiste, Rosa Luxembourg appartient à la galerie des icônes politiques du XXe siècle. Elle a traversé trois révolutions majeures et vu s'effondrer les grands empires dans le tumulte de la Première Guerre mondiale. Rosa Luxembourg est morte assassinée il y a un siècle, à 47 ans. Mais son œuvre lui survit à travers sa correspondance et ses écrits politiques, régulièrement réédités, partagés et disputés par celles et ceux qui se réclament de son héritage. De Varsovie à Berlin, en passant par Zurich, un parcours dans la vie et les usages de Rosa Luxembourg avec les historiennes Sandrine Cotte et Hélène Camarade. Sandrine Cotte, bonjour. Vous êtes professeure à l'Université de Genève et spécialiste de l'histoire de la société allemande au 19e et au 20e siècle. Pour commencer, ce portrait de Rosa Luxembourg, a-t-on des descriptions de sa manière d'être au monde, de sa façon de parler par exemple ?
Alors, Rosa Luxembourg a beaucoup écrit, elle a envoyé énormément de lettres, elle a été une correspondante extrêmement assidue, par exemple à son premier amant, Léon Yogichet, avec lui, elle a échangé au moins 1000 lettres. Donc, elle s'est beaucoup livrée, elle a beaucoup raconté sur elle-même, d'une certaine façon. Elle avait des amis très très proches, Louis Kotsky en particulier, ou même Clara Zetkin, qui ont parlé sur elle, qui ont dit, et qui l'ont décrite comme quelqu'un, et c'est évidemment un peu contre-intuitif, comme quelqu'un de plutôt frêle. Elle avait une voix qui portait pas tellement.
Ça n'était pas une harangueuse telle qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui.
Elle était une harangueuse dans la volonté d'haranguer, mais c'était une personne plutôt frêle, elle était petite et en plus elle boitait beaucoup, ce qui la rendait très vulnérable, en particulier dans les foules, qu'elle n'aimait pas beaucoup les foules, enfin du moins c'est ce qu'elle disait. Bref, c'était une personnalité qui dont la fragilité était évidente, et c'est d'ailleurs la manière dont Louis Kotsky l'a décrit, et aussi Clara Zetkin, comme quelqu'un de fragile.
Et dans quelle famille naît-elle ?
Alors, elle naît dans une famille de la petite bourgeoisie juive, d'une petite ville de Pologne qui s'appelle Zamość, en 1871. C'est une famille qui a été décrite comme une famille très séculière, hein, ce qui est vrai, c'est-à-dire que on parlait pas yiddish à la maison. On parlait le polonais et l'allemand d'ailleurs, sa mère était très pieuse en réalité, et donc elle a reçu une éducation et une culture religieuse juive, et même si elle-même ne s'est jamais définie comme juive, en tout cas ça c'était pas du tout un élément de son autodéfinition. Elle connaissait en fait la culture juive, et d'ailleurs elle a fait une expérience de l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas quelque chose qui lui est indifférente, elle l'a subi, et elle en a fait une expérience directe lors du grand pogrom de Varsovie de 1881, qui l'a probablement beaucoup marqué. Parce que, en particulier, elle raconte dans une de ses lettres qu'elle a dû protéger une petite fille juive qui était attaquée par des pogromistes. Et un des éléments son hypersensibilité à l'injustice est probablement aussi, pas simplement, mais aussi lié à cela.
Rosa Luxembourg est polonaise, mais elle vit dans une province de l'Empire russe. Absolument. Puisque la Pologne à ce moment-là n'existe pas en tant qu'entité politique. Et elle va quitter la Pologne, ce qui va lui permettre de faire des études supérieures, d'accéder à l'université, ce qui n'était pas le cas à Varsovie, là où elle a fait ses études secondaires.
Alors, elle a fait, c'est effectivement tout à fait, c'est absolument juste. La Pologne n'existe pas comme État-nation jusqu'en 1918. En réalité, elle est divisée, et Rosa Luxembourg vit dans la partie russe, en fait, de la Pologne, qui est certainement celle où les libertés pour les femmes, et pour les femmes juives en particulier, étaient les plus affirmées. Donc, elle fait son lycée à Varsovie, Et ensuite, elle fait ses études supérieures de manière un peu ironique, enfin assez normalement, mais un peu ironique, je vais y revenir, en Suisse, à Zurich. Il faut savoir que les universités suisses accueillaient énormément d'étudiantes étrangères. Pas beaucoup d'étudiantes suisses, justement, c'est ça qui est amusant, mais beaucoup d'étudiantes étrangères et beaucoup d'étudiantes donc en provenance de l'Empire russe, parce que c'était pas possible, quand on était une femme, de faire des études dans l'Empire russe. Et en plus, elle était juive, donc elle rentrait dans les politiques de quotas qui faisaient qu'elle était donc doublement défavorisée et elle n'aurait pas pu faire d'études dans l'Empire russe. C'est la raison pour laquelle elle fait donc ses études de sciences politiques, économie et droit d'ailleurs à l'université de Zurich. Elle fait une thèse sur l'industrialisation de la Pologne à l'université de Zurich.
Que sait-on de son entourage ? Parce qu'on imagine bien qu'une jeune femme, une jeune fille qui arrive dans un pays étranger dans ces années 1890 va côtoyer d'autres étudiants, peut-être d'autres nationalités, et forger ou se conforter dans des tendances, des opinions politiques qu'elle nourrissait peut-être déjà en Pologne avant d'arriver à Zurich, Sandrine Kott.
Oui, d'abord il faut savoir que déjà quand elle était au lycée en Pologne, au début des années 1880, hein, elle termine sa scolarité secondaire en 1882, elle faisait partie d'un cercle socialiste et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parce qu'elle avait des activités politiques, c'est la raison donc pour laquelle elle n'obtient pas la médaille d'or qu'elle aurait dû obtenir pour ses très très bons résultats au lycée. Donc elle était déjà à ce moment-là une rebelle, on peut dire. Et quand elle arrive à Zurich, bien là, Zurich, c'est le centre d'une immigration révolutionnaire, enfin toute la Suisse d'ailleurs, hein, d'une immigration révolutionnaire extrêmement vivante. Et elle y rencontre donc d'autres révolutionnaires, en particulier un qui s'appelle Léo Yogichès, qui va être donc son amant pendant de nombreuses années, et aussi avec lequel elle va construire une amitié intellectuelle et partisane extrêmement féconde, on pourrait dire, puisque ils vont écrire des choses ensemble, ils vont militer ensemble. Donc Léo Yogichès est originaire de Lituanie, de la ville de Vilnius, et comme Rosa Luxembourg, ensemble, ils vont d'une certaine manière donc défendre un point de vue qui est un point de vue révolutionnaire à l'intérieur du mouvement social-démocrate. Et ils vont fonder ensemble et animer ensemble donc le parti social-démocrate polonais.
Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, lors de ce séjour suisse qu'elle va bientôt quitter, qu'elle commence à écrire parce que, et vous nous le disiez au début de cette émission, Sandrine Kott, elle écrit beaucoup. Oui. On garde de nombreux écrits de Rosa Luxembourg. Donc oui, l'héritage de papier est conséquent.
Alors elle écrit beaucoup, les livres, enfin, mais surtout elle a énormément écrit. Bon, d'abord de lettres, elle a une correspondance extrêmement fournie. De différentes natures d'ailleurs, ça peut être une correspondance très politique, mais ça peut être aussi une correspondance très sensible, par exemple ces fameuses lettres de prison, qui sont vraiment absolument merveilleuses du point de vue de son rapport au monde, de la manière dont elle regarde le monde autour d'elle, alors qu'elle est en prison. Et elle écrit aussi énormément d'articles dans la presse partisane. Donc une grande partie de cela constitue un corpus, en fait, un corpus politique extrêmement riche sur énormément de choses, en particulier parfois même des analyses ethnographiques sur... je me souviens d'un article que j'avais trouvé très intéressant sur l'empoisonnement et la mort dans un asile de personnes donc démunies qui avaient été tuées par le fait de manger de la viande avariée, et la manière dont elle travaillait en fait sur cet épisode qui était un fait divers et comment elle en faisait une analyse politique. Voilà, tout ce genre de choses, c'est ça Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, c'est, elle produit une œuvre théorique, mais qui est une œuvre théorique extrêmement sensible et ancrée dans la réalité du monde.
Et partie de Varsovie, elle soutient cette thèse sur l'industrie polonaise
en 1897.
En Suisse, et en 1898, elle élabore un stratagème pour pouvoir gagner l'Allemagne. Et ce stratagème va passer par un mariage blanc. Pourquoi était-ce utile, ce mariage blanc, pour Rosa Luxembourg, pouvoir rejoindre l'Allemagne, Sandrine Cotte?
Merci de me donner l'occasion de parler de ce mariage blanc. Donc, elle fait effectivement un mariage blanc avec Gustave Lübeck. Donc, il y a plusieurs raisons. Bon, pour moi, ce mariage blanc, il a plusieurs significations, comme toujours dans la vie de Rosa Luxembourg. D'abord, elle a besoin de faire ce mariage blanc pour obtenir la nationalité allemande et pour pouvoir s'engager dans la social-démocratie allemande, pour devenir membre du Parti social-démocrate.
Pour s'engager en politique.
Il faut savoir aussi, d'ailleurs, c'est pas un hasard que ce soit 1898, parce que c'est l'année à laquelle les femmes ont l'autorisation de rentrer dans des partis politiques et dans des syndicats en Allemagne. Avant, elles ne pouvaient pas. Elles n'avaient pas le droit. Donc, grâce à cette nationalité allemande qu'elle acquiert par Lübeck, elle peut donc s'engager en politique pleinement. Elle devient membre de la social-démocratie allemande à ce moment-là. Mais en plus, ce mariage blanc dit beaucoup sur la femme qui est Rosa Luxembourg. C'est une femme libre. Donc, elle a fait ce mariage blanc, mais à part ça, elle a vécu donc avec des hommes avec lesquels elle n'a pas été mariée. Léo Yogichès, évidemment, qui était un homme qui a énormément compté dans sa vie. Mais on dit toujours ça, mais on dit jamais que Rosa Luxembourg a aussi beaucoup compté dans la vie de Léo Yogichès. Je veux dire que c'est vraiment un compagnonnage intellectuel partagé. Et puis ensuite, Paul Lévy, qui a aussi joué un rôle très important et avec lequel elle n'était pas non plus mariée, mais qui est très important parce qu'il a édité les dernières œuvres de Rosa Luxembourg. Voilà, donc c'est une femme qui a entretenu avec les hommes des rapports d'égal à égal, véritablement, qu'elle a construit en fonction de ses propres objectifs, qui étaient effectivement essentiellement son objectif principal dans la vie, c'était quand même de faire la révolution.
Pour autant, elle fera l'expérience douloureuse de la conjugalité légale, parce que je crois qu'elle aura un peu de mal à se débarrasser justement de ce mariage blanc contracté pour gagner l'Allemagne.
Oui, elle va avoir un petit peu le mal à s'en débarrasser, mais finalement, elle va finir. Oui, ça lui pèse, elle le dit elle l'écrit dans un certain nombre de lettres. Donc on en a un certain nombre d'éléments, mais finalement, bon, ça va pas tellement déranger ses engagements qui sont effectivement essentiellement ses engagements politiques. Et puis, elle travaille énormément. C'est une très, très grande travailleuse. Elle le dit d'ailleurs, elle travaille trop, dit-elle. Voilà.
Alors, revenons à son objectif principal qui est de s'engager en politique. Oui. Elle adhère au Parti social-démocrate allemand. À l'époque, cette sociodémocratie, ce projet allemand, c'est encore une innovation politique, Sandrine Cotte.
Bon, la social-démocratie allemande, c'est le parti qui a la vie... sous cette forme-là, c'est le parti qui a la vie la plus longue dans l'histoire allemande. C'est d'ailleurs un parti d'une longévité absolument incroyable. Il a été fondé sous la forme actuelle, disons, en 1875. Et donc, il perdure jusqu'à aujourd'hui, puisque la social-démocratie allemande existe toujours. Il y a un parti qui a été fondé dans l'Allemagne unifiée avant la social-démocratie allemande et qui a aussi, d'une certaine manière, une longévité. C'est ce qui s'appelait le Zentrum, c'est le parti catholique qui est devenu, en fait, les chrétiens-démocrates. Donc, il s'est un petit peu transformé, quand même. Donc, c'est un parti, en 1898, qui, quand même, a existé déjà depuis un certain temps et qui connaît... pas une crise, mais en tout cas qui connaît des divisions en 1898, au moment où elle y entre. C'est déjà un parti divisé entre deux voire trois courants. Pour simplifier, disons deux courants. Un courant révisionniste qui est emmené donc par Bernstein la position donc de Bernstein, d'Edouard Bernstein, c'est de dire que, eh bien, donc depuis la fin des années 90, il observe qu'au fond, le capitalisme, contrairement à la prévision de Marx, se maintient, que la paupérisation absolue n'arrive pas, qu'au contraire, le capitalisme produit en fait une classe moyenne et qu'en conséquence de quoi, il n'est pas possible d'imaginer de combattre le capitalisme comme on l'envisageait à l'époque, dans la première moitié du 19e siècle. Et que ce qu'il faut faire, c'est acculturer les ouvriers, acculturer le mouvement ouvrier et ceux qui sont ses alliés, les rentrer dans le processus processus démocratique, dans la démocratie libérale que propose en fait ce système, de manière à faire un contre-pouvoir qui soit suffisamment important pour donner de plus en plus de droits aux ouvriers. Et l'idée, c'est qu'en donnant de plus en plus de droits aux ouvriers, en leur donnant de plus en plus de pouvoir à l'intérieur du système, donc en acceptant les règles du jeu, qui sont les règles du jeu de la démocratie libérale, il y aurait une évolution naturelle, en quelque sorte, de ce système vers plus de droits, plus d'égalité, et donc vers le socialisme. Il faut jamais oublier que Bernstein n'a jamais pensait qu'il abandonnait le projet socialiste. Il y a toujours cette idée que on va construire le socialisme, mais on va le construire différemment. Pas par la révolution violente, pas en s'emparant de l'État, mais en transformant l'État de l'intérieur. C'était alors ça le projet.
Alors que c'est la conviction, et elle prendra partie dans ce sens-là, de Rosa Luxembourg, qu'il faut une rupture brutale, c'est-à-dire voilà. Une stratégie révolutionnaire.
Voilà. Alors, Rosa Luxembourg, elle fait partie du deuxième groupe, en quelque sorte, qui est très minoritaire à l'époque, en 1898, qui est les tenants de la révolution. Rosa Luxembourg est d'une fidélité absolue à la lettre du marxisme. Elle connaît très bien les textes marxistes. Elle est vraiment d'une fidélité absolue. Et quand on lit ses textes, ses articles, etc., on voit à quel point elle s'appuie en permanence sur la lettre du marxisme. De manière ironique, il faut quand même savoir que c'est Bernstein qui est héritier, en fait, de l'héritier intellectuel d'Engels. Donc, en fait, le compagnon de Marx. Engels lui a donné l'héritage intellectuel. Donc, il a aussi une légitimité très forte à l'intérieur du mouvement socialiste pour cette raison. Rosa Luxembourg, elle pense, elle, qu'il n'y a pas de possibilité de construire le socialisme en dehors de la révolution. Et la question, c'est de savoir comment on va faire la révolution. Et puis, il y a en fait un troisième groupe à l'intérieur de la social-démocratie allemande, qui est le groupe le plus puissant, en fait, autour de Kautsky, Bebel, etc. Et ce groupe-là, c'est le groupe des gens qui condamnent en réalité, en parole, le révisionnisme bernsteinien, puisque le révisionnisme bernsteinien a toujours été condamné, dans toute la période de la vie de Rosa Luxembourg en tout cas, par le parti, en tant réuni en congrès, donc en particulier en 1904, et dans la pratique, en fait, s'adapte la réalité de la négociation avec ce que devient l'empire allemand à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire un empire qui reste, qui n'est pas évidemment un État démocratique, mais où la démocratisation progresse. Et en particulier, donc, Kautsky, au moment de sa grande rupture avec Rosa Luxembourg, là, en 1904, c'est le moment de la rupture même déjà dès la fin des années 90, donc, considère que Rosa Luxembourg est une utopiste, etc., et que la révolution telle qu'elle imagine, ça va bien pour les Russes, dit-il, parce que ça va être la révolution de 1905, et c'est vrai qu'en 1905, Rosa Luxembourg, elle s'engage directement dans la révolution russe, elle y va, elle va d'ailleurs être emprisonnée, et elle a donc l'expérience révolutionnaire qui la marque énormément. Et à ce moment-là, Kautsky, dans un article assez célèbre, considère que oui, elle défend une vision russe, comme il dit, du socialisme, ce qui est étonnant pour Rosa Luxembourg, parce qu'elle est évidemment complètement anationale, Rosa Luxembourg.
Alors justement, une des premières missions qui sont confiées à Rosa Luxembourg par ce parti social-démocrate, c'est de mettre à profit sa langue maternelle, sa langue polonaise, pour aller faire campagne dans les provinces polonaises, cette fois-ci allemandes. Oui. Elle est originaire des provinces polonaises russes. Et là, on va voir se développer aussi une relation de Rosa Luxembourg au nationalisme, auquel elle n'adhère pas du tout, très particulière.
Oui, alors elle est envoyée en Silésie, en fait, qui est une province allemande, mais très largement polonophone. Et donc, elle va avoir une assez grande difficulté à se situer, parce qu'effectivement, elle est envoyée comme polonophone, dans cette province polonophone. Et elle est prise en tenaille entre le nationalisme allemand très fort de la social-démocratie. Enfin, il y a un courant très nationaliste à l'intérieur de la social-démocratie allemande, dirigé par Noske en particulier, mais l'ensemble des sociodémocrates allemands sont en réalité assez nationalistes, pas Bernstein, justement, révisionniste, qui d'ailleurs ensuite va être un des avocats contre la guerre. Donc, vous voyez, on peut être révisionniste et contre la guerre.
On y reviendra,
voilà. Mais elle est prise en tenaille entre donc le nationalisme de la social-démocratie allemande, qu'elle critique beaucoup, et le nationalisme polonais, qu'elle critique également. car Rosa Luxembourg est une universaliste. Fondamentalement, elle est universaliste et elle considère qu'il y a un objectif. L'objectif, c'est la révolution, sociale, et que pour que cette révolution sociale advienne, en ce sens, elle est également assez marxiste, eh bien, les prolétaires de tous les pays doivent s'unir indépendamment de la question nationale. C'est la raison aussi pour laquelle elle est anti-sioniste, très fortement anti-sioniste, et même anti le mouvement spécifique des travailleurs juifs en Lituanie et Pologne, qui s'appelle le Bund. Elle est également hostile au Bund, car elle considère que c'est une spécification culturelle. Alors, elle est dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, elle serait très, très, très malheureuse, Rosa Luxembourg. Donc, c'est une spécification culturelle. Or, le seul objectif politique valable, le seul objectif qu'on doit se fixer, qui va résoudre toutes les contradictions de la société capitaliste, c'est la révolution socialiste. En conséquence de quoi, il ne faut pas diviser les forces. Il ne faut pas diviser les forces culturellement, nationalement, et il ne faut même pas diviser les forces entre les hommes et les femmes, par exemple. Voilà. Son point de vue est un point de vue profondément et complètement universaliste.
Contrairement à ce qu'on peut penser, la question de l'engagement des femmes, la question du caractère féministe de la pensée de Rosa Luxembourg est très marginale.
Oui, c'est très intéressant, hein, parce que le féminisme a réclamé Rosa Luxembourg comme figure. Il l'a réclamé pour ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne comme une femme libre en fait, hein, dans une société quand même très largement dominée par les hommes au XIXe siècle. Donc, en tant que ce qu'elle a fait de son existence, on peut dire qu'elle s'est comportée comme une féministe, clairement. Mais dans ses engagements, le féminisme n'est pas un de ses engagements politiques. Alors, elle ne sait pas qu'elle ne s'est jamais exprimée sur la question des femmes. Elle fait partie, par exemple, sa très grande amie, Clara Zetkin, a fondé donc l'Internationale Socialiste des Femmes, elle en fait partie. Et puis, en 1912, elle écrit un texte qu'elle lit, donc, au moment du congrès, sur la question du suffrage des femmes. Elle est très favorable au suffrage des femmes, évidemment, parce que elle considère que, évidemment, les femmes socialistes, les femmes ouvrières, doivent avoir le droit de vote, exactement comme les hommes. En ce sens, elle est là, elle engage un combat féministe, on peut dire. Mais elle l'engage au nom, encore une fois, de l'universalité du projet révolutionnaire. Et il y a aussi une autre proposition qu'elle fait qui me semble être une proposition complètement novatrice et très intéressante et qui a très peu été reprise, c'est l'idée que le travail domestique doit être un travail rétribué. Parce que le travail reproducteur est un travail qui est absolument essentiel à l'existence de la société. Et donc, elle prend position en faveur de la rétribution du travail domestique et de la redistribution donc du travail reproducteur. C'est important de le dire parce que c'est un sujet qui est revenu à l'ordre du jour dans un certain nombre de discussions sur la question du travail des femmes récemment.
Alors justement, ce parti social-démocrate ne va cesser d'être troublée par les différents courants qui l'agitent. Qu'en est-il au moment de la révolution de 1905, ce parti œuvrant pour que le socialisme triomphe et gouverne au moins les provinces de l'Empire allemand? Que va-t-il se passer? Comment Rosa Luxembourg va-t-elle voir incarner enfin devant elle une véritable expérience révolutionnaire qui se passe en Russie, d'une certaine façon son empire natal, si ce n'est son pays?
Alors, la révolution de 1905, non seulement elle la regarde, mais elle y participe. Enfin, elle essaye d'y participer parce qu'elle va être très, très rapidement emprisonnée. Et là, pour elle, c'est une révélation, la révolution de 1905. C'est à partir de cet épisode révolutionnaire, qui est un épisode révolutionnaire spontané, non organisé à partir de partis, etc., qu'elle développe cette idée de la spontanéité révolutionnaire des masses. L'idée, donc, que, il n'y a pas besoin d'appareil de parti pour faire la révolution. Que la révolution va venir du peuple spontanément parce que le peuple a besoin de faire valoir des droits et que plus il est confronté à l'injustice, plus au fond il va avoir tendance à se révolter. Malheureusement, on peut pas vraiment lui donner raison parce que c'est pas exactement ce qui s'est passé.
Elle conteste d'une certaine façon ceux qui se réclament d'une certaine professionnalisation de la révolution.
Alors, elle conteste des deux bords. Je vois très bien où vous voulez m'emmener. Donc, elle conteste des deux bords. Elle conteste d'abord la bureaucratisation de la social-démocratie allemande, qui est devenue un énorme appareil. Bon, on l'a dit, beaucoup de militants, aussi beaucoup de permanents, beaucoup d'élus, etc. Des élus aussi même locaux dans certaines villes du Sud, etc. Donc, on a une espèce de professionnalisation ce qu'elle appelle la bureaucratisation, la bureaucratisation de la social-démocratie allemande, qu'elle critique de manière très virulente dès la fin des années 90, et dont elle considère que c'est ça qui coupe ses ailes révolutionnaires, en quelque sorte. Donc ça, c'est une critique. Et de l'autre côté, elle critique tout autant, dès 1906-1907, et évidemment de manière encore plus violente en 1918, le modèle bolchevique, le modèle mis en place par Lénine, de révolutionnaires professionnels.
On y reviendra.
Voilà. Non, mais c'est important de dire que cette critique-là, c'est sur les deux bords. C'est pas simplement la critique du léninisme, c'est aussi la critique de la bureaucratisation. Elle est très critique à l'égard de la bureaucratisation de la social-démocratie, mais aussi des syndicats, par exemple.
Et d'ailleurs, une fois sortie de prison, elle va entrer, franchement, en minorité au sein de son parti politique, en s'opposant au vote de crédit de guerre, donc au vote de l'entrée en guerre en 1914 de l'Allemagne, donc dans le cadre de cette grande première guerre mondiale qu'on connaît tous.
Alors, elle entre en dissidence, effectivement, en fait, même avant, parce qu'elle entre en dissidence quand elle revient de la révolution de 1905, enfin, elle revient en 1906, après avoir été libérée, d'ailleurs, grâce aux cautions de son frère, donc de cette famille d'origine auquel elle a quand même largement tourné le dos, et puis aussi de ses amis de Zurich, donc qui ont plus d'argent qu'elle, tous les révolutionnaires ont leur petit côté, pourrait-on dire. Et donc elle commence effectivement à prendre une position, on pourrait dire, très hostile au révisionnisme à ce moment-là et très en décalage par rapport à la tendance générale au sein de la démocratie qui est, en fait, d'accepter les élections, de rentrer dans le jeu de la démocratie libérale. Néanmoins, c'est quand même en 1907, c'est-à-dire après, et alors qu'elle est déjà dans une position dissidente, ce qui vous montre quand même le côté très ouvert de la social-démocratie allemande à cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui. La social-démocratie, c'est un parti très ouvert, finalement, idéologiquement parlant, parce qu'elle va avoir, elle va prendre la chaire qui a été laissée vacante par Rudolf Hilferding d'économie politique à l'intérieur de l'école du parti de l'école du parti de la social-démocratie. C'est-à-dire, en fait, une position très importante de formation des cadres de la social-démocratie. Et cela, alors qu'elle est déjà un peu en décalage par rapport aux orientations générales du parti. Moi, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur le Parti social-démocrate de l'époque.
En 1914, elle s'oppose au vote des crédits de guerre que son parti politique va pourtant accepter de voter. Elle s'oppose à l'idée même de cette guerre de 1914 qui va commencer. Et là, d'une certaine façon, elle entre dans une radicalité qui va l'amener à rompre avec ce parti et à fonder progressivement son propre groupe politique, le groupe spartakiste, qui ensuite deviendra, évidemment bien plus tard, le Parti communiste allemand.
Oui, alors, très juste, elle s'oppose au crédit de guerre, elle n'est pas la seule en fait, hein, Liebknecht aussi, à l'intérieur de la social-démocratie, mais elle fait effectivement partie à ce moment-là d'un courant minoritaire. Bon, je rappelle que quand même, dans tout, pratiquement tous les partis sociaux, socialistes ou sociodémocrates, ont voté les crédits de guerre, bon, pas les Italiens, ni une partie de des socialistes russes. Donc elle est effectivement minoritaire. Et progressivement, ces personnes hostiles à la guerre à l'intérieur de la social-démocratie allemande, qui considèrent la guerre comme une guerre non pas de défense, ça c'est la propagande évidemment des partis au pouvoir, mais comme une guerre impérialiste, comme il l'appelle, ce groupe devient de plus en plus important. Et à ce moment-là, Bernstein, effectivement, les rejoint et il crée, avant le groupe spartakiste, il crée une scission à l'intérieur de la social-démocratie qui s'appelle l'USPD, donc la social-démocratie indépendante, ou Unabhängige, comme on dit, indépendante, au sein de laquelle, de manière étrange, donc, Bernstein côtoie Rosa Luxembourg, alors que c'était les ennemis d'avant. Et puis, c'est plus tardivement, donc à la toute fin de la guerre, au moment où se déclenche la révolution qui va clore la Première Guerre mondiale en Allemagne, que elle fonde ce mouvement spartakiste avec son journal Die Rote Fahne, donc le drapeau rouge, qui va se transformer assez rapidement en 1919, donc en parti communiste, en adhérant donc à la Troisième Internationale communiste, quoique avec un certain nombre de réticences de la part de Rosa Luxembourg.
Mais avant que Rosa Luxembourg n'arrive à cette période de sa vie où elle vit sa propre révolution, la révolution sur son propre terrain, intervient la révolution russe de 1917, cette très grande révolution qui va changer la face de l'histoire, qui l'intéresse évidemment. Pour autant, elle se méfie très vite du devenir de cette deuxième révolution russe.
Oui, elle est au départ, on le voit dans ses lettres de prison, elle célèbre la révolution russe comme un très grand moment, évidemment, c'est ça. Il y a le rappel aussi de 1905, etc. Donc elle le voit comme quelque chose d'extrêmement positif, mais assez rapidement, elle formule un certain nombre de d'inquiétudes. On peut dire c'est vraiment sous la forme de l'inquiétude, et en particulier, elle prononce cette phrase, enfin elle écrit cette phrase, la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Et elle est inquiète devant le raidissement dictatorial, en réalité, de l'épisode révolutionnaire, la manière dont la révolution évolue vers une interdiction des libertés politiques, en particulier sous la direction de Lénine et de Trotsky.
L'Allemagne est un pays vaincu à l'issue de cette Première Guerre mondiale. Et en 1918, c'est sur le terrain de Rosa Luxembourg, en Allemagne, que se déclenche une nouvelle révolution. Une révolution spontanée, déclenchée par les marins et les ouvriers, qui a dû réjouir Rosa Luxembourg. Ouais,
absolument,
Cotte,
absolument, absolument. C'est le mouvement des conseils, hein. C'est-à-dire, c'est un mouvement effectivement assez spontané à l'origine, spontané, bon, on n'a pas le temps, mais il faudrait voir un petit peu comment socialement c'est possible, en particulier à l'intérieur de la flotte, hein. On a là des marins c'est comme une bouilloire, hein, un navire, vous imaginez bien, ils sont tous ensemble. Et puis les oppositions sociales sont très très fortes à l'intérieur de ce corps d'armée, où on a les officiers qui ont une bonne nourriture, etc., qui mangent en haut, et puis les marins qui sont très très maltraités. Donc ça exacerbe l'idée de la lutte des classes, ça exacerbe le sentiment de la lutte des classes, de l'inégalité sociale très très forte.
Dans un contexte
de guerre dont ils savent très bien que de toute façon c'est une guerre qui est sans issue, hein, que au fond, même si on a beaucoup menti, si l'état-major a beaucoup menti aux soldats allemands et qu'ils ont cru éventuellement la guerre possible, la guerre gagnable en quelque sorte jusqu'à la fin, bon, c'est assez rapidement quand même, en 1918, ils se rendent bien compte que ça va plus être possible et qu'on les fait continuer à combattre pour rien. Donc il y a évidemment tout ça, et ça va de la part des marins, donc ça commence à Brême, à Hambourg, donner naissance donc aux premiers épisodes révolutionnaires. Cette révolution donc s'organise sous forme donc de conseils de soldats, c'est-à-dire une auto-organisation ouvrière à laquelle vont participer donc assez rapidement les spartakistes, mais aussi les anarchistes, même certains sociodémocrates. Hein, tout le monde évidemment est là pour essayer d'encadrer en partie, parce que bon, il faut quand même un petit peu de culture politique pour faire tout ça, ce mouvement-là. Rosa Luxembourg est en prison à ce moment-là, hein, donc elle n'y participe pas au départ. Elle est encore en prison, elle a été emprisonnée pendant presque toute la Première Guerre mondiale.
Et l'empereur Guillaume II abdique à la suite de cette révolution. Et là, on assiste à une multiplication de proclamations de la République.
Oui.
Et la lutte fratricide qui couvait peut-être dans ce qu'on pourrait appeler cette gauche allemande se fait terrible. Et Rosa Luxembourg en sera d'ailleurs une des victimes, puisque sortie de prison, elle meurt assassinée en 1919, oui, aux côtés de Karl Liebknecht.
Voilà, alors la République est proclamée deux fois par Scheidemann, donc pour la social-démocratie, je dirais, majoritaire, et puis par Karl Liebknecht pour le courant révolutionnaire qui est déjà le courant spartakiste, ou qui est le courant spartakiste en devenir en tout cas. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a appelé Der Verrat, la trahison en fait, et qui explique la division très très forte, l'impossibilité de réconciliation entre les communistes et les sociodémocrates pendant toute la République de Weimar, qu'on ne peut pas s'expliquer autrement que dans ce moment originel qui est un moment terrible, où les sociodémocrates allemands, pour maintenir en fait la République naissante, ont accepté de pactiser avec les corps francs, c'est-à-dire cette partie de l'armée démobilisée qui va en fait se radicaliser pour donner après les SA et la SS, hein, quand même. Donc les corps francs, les casques de fer, etc. Et ils les ont utilisés, ils ont pactisé Noske, donc en particulier le ministre de l'Intérieur, qui était déjà à l'intérieur de la social-démocratie, la partie la plus à droite, et en particulier qui avait pris position en faveur de la colonisation. Bref, c'était certainement quelqu'un qui était de toute façon très très loin de Rosa Luxembourg, même dans le même parti. Et donc Noske a fait alliance avec ses corps francs et pour réprimer la révolution spartakiste, qui n'est pas seulement spartakiste, en tout cas les épisodes révolutionnaires, aussi bien à Munich qu'à Berlin. Et Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht vont tomber victimes en fait de cette répression. Ils sont arrêtés et assassinés par ces corps francs. Le corps de Rosa Luxembourg a été jeté en fait dans le Landwehrkanal, donc dans un des canaux de Berlin, repêché, on pense, deux mois après, mais on n'est pas du tout sûr que c'est bien son cadavre. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande. Il y a donc, à partir de là, un enterrement qui a réuni tout ce qui reste en fait de porteurs de l'idéal révolutionnaire allemand, un très très grand enterrement. Et chaque année de nouveau, donc au moment de la mort de Rosa Luxembourg, il y a des manifestations pour aller se recueillir sur sa tombe, bien qu'on ne sache pas si c'est vraiment elle qui soit enterrée dans ce cercueil, mais ça n'a pas beaucoup d'importance.
Elles sont rares, Sandrine Cotte, les femmes de cette période-là, de ce tournant du 19e et du 20e siècle, à être connues et reconnues pour leur engagement politique officiel.
Elles sont rares, mais il y en a quand même. C'est-à-dire que, en réalité, il y a une oblitération de l'engagement des femmes en politique très très forte. Alors bon, Rosa Luxembourg, l'avantage qu'elle a sur d'autres, c'est que elle a beaucoup écrit. Elle a produit une œuvre théorique et une œuvre d'analyse politique extrêmement riche. Donc ça a beaucoup contribué à sa notoriété. Mais il y a beaucoup d'autres femmes engagées en politique à l'époque. Bon, ne serait-ce que Clara Zetkin, évidemment, qui est également extrêmement importante, qui est la cofondatrice du Parti communiste avec Rosa Luxembourg en 1919, et qui va aussi contribuer d'ailleurs à développer le mythe, le culte de Rosa Luxembourg. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Rosa Luxembourg est connue, mais j'insiste pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'autres femmes en politique, et cela en dépit du fait que on les a empêchées d'en faire. Et pourtant, elles en ont fait. Et parce qu'on les a empêchées d'en faire, ou qu'on les a rendu difficile leur entrée en politique, elles ont été plus rares à pouvoir écrire, à pouvoir prendre la parole, à être visibles, et en conséquence de quoi, elles ont disparu de la mémoire collective et même de l'histoire, en fait, de ces mouvements ouvriers. Mais elles sont là. Par exemple, dans la révolution de 1918, il y a maintenant beaucoup de travaux sur la présence des femmes dans la révolution de 1918, et cette présence est bien réelle. Simplement, elle est peu visible dans les sources qu'on a laissées, qui sont des sources calibrée pour un engagement de type masculin, en quelque sorte.
Et contrairement peut-être à cet exemple de Rosa Luxembourg qui a laissé un héritage de papier conséquent. Merci à vous, Sandrine Cotte.
Merci.
Hélène Camarade, bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire des résistances et des oppositions au nazisme et au communisme en Allemagne. Alors concernant Rosa Luxembourg, il y a un rendez-vous annuel autour de sa mémoire. Hélène Camarade, ce sont les célébrations de janvier autour de l'anniversaire de sa mort. Chaque année, une procession va se recueillir sur sa tombe au cimetière de Friedrichsfeld. Qui peut-on y rencontrer ?
Alors, en 1919, dès la mort de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, l'enterrement rassemble beaucoup de monde. Mais on n'a à l'époque pas encore retrouvé le cadavre de Rosa Luxembourg. Et quand elle est elle-même ensuite enterrée au mois de juin, il y a tellement de monde au cimetière qu'on est obligé de mettre en place un système de tickets d'entrée. Donc, on voit que dès l'origine, ce lieu va devenir un lieu de pèlerinage finalement pour les communistes allemands. Et donc tous les ans, pendant la République de Weimar, on organise des manifestations, une vraie manifestation qui se sorte de procession pour se rendre vers le cimetière. Et ensuite, on va faire des discours et se recueillir sur la tombe de Karl Liebknecht donc, et de Rosa Luxembourg. Alors cette commémoration se poursuit, et si bien que l'on construit une sorte de mémorial qui va s'appeler le mémorial des socialistes, à côté de leur tombe.
Et on est encore fidèle aujourd'hui à cette procession. Chaque année, on vient célébrer la mémoire de Rosa Luxembourg encore aujourd'hui dans ce cimetière de Friedrichsfeld.
Oui, tout à fait. Ça traverse tout le XXe et XXIe siècle, puisque même pendant le national-socialisme, ou pendant les années de national-socialisme où les communistes sont évidemment persécutés, assassinés et poussés à l'exil, les manifestations en la mémoire de Rosa Luxembourg vont avoir lieu en exil. Alors il y en a une à Mexico, il y en a une dans tous les lieux d'exil des communistes allemands, puisque c'est une date vraiment de recueillement et de... qui scelle en fait à l'origine aussi la guerre fratricide entre les sociaux-démocrates allemands et les communistes allemands, et qui est aussi donc une date en fait où on va se rappeler de cette trahison des sociaux-démocrates.
Oui, cette guerre fratricide justement qui accompagne d'une certaine façon l'assassinat de Rosa Luxembourg, puisque c'est à ce moment-là que se fait le conflit ouvert, qui d'ailleurs expliquera une grande partie de l'histoire politique de l'entre-deux-guerres en Allemagne, Hélène Camarade.
Mais tout à fait. C'est pour ça que cette date, vraiment, enfin, cet assassinat, ce double assassinat, est vécu comme une trahison impardonnable et un tournant irréversible dans l'opposition et donc irréconciliable, enfin, entre les sociaux-démocrates et les communistes allemands. Et ça se poursuit évidemment dans les années qui mènent au national-socialisme et même ensuite dans la résistance et en exil.
Alors justement, que fait cette résistance en l'honneur, en mémoire de Rosa Luxembourg ? Comment s'en empare-t-on ? Et peut-être, quelle est la Rosa Luxembourg qui est mise à l'honneur dans cette mémoire-là, Hélène Camarade ?
Alors, sous le national-socialisme, c'était plus symbolique, évidemment, que... Donc, Bertolt Brecht, par exemple, va organiser une manifestation et lire des poèmes ce jour-là. Les communistes exilés, donc, en Amérique latine, vont aussi se réunir. Et il a été attesté qu'il y a une sorte de manifestation, un recueillement dans un camp de concentration dans les années 40. Donc, c'est vraiment une date pour les communistes allemands qui les rattache, si vous voulez, à leurs origines, à leur histoire, et qui, évidemment, renforce leur combativité.
Alors, on parle de communisme depuis le début de cet entretien, mais on sait bien que cette pensée politique est peuplée de très nombreuses familles. Comment l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne communiste, s'est emparée de l'héritage de Rosa Luxembourg après cette Seconde Guerre mondiale ?
Alors, l'Allemagne de l'Est qui se met en place déjà au moment de l'occupation soviétique, dès 1946, je dirais, va tout de suite s'inscrire dans cette tradition lancée au moment de la République de Weimar, va reconstruire le mémorial, aux socialistes que les nazis auront détruit, et va reprendre donc cette tradition, et cette fois-ci en très grande pompe. Ça va devenir un événement national aussi important que les manifestations du 1er mai. C'est vraiment comparable, avec donc toutes des manifestations d'apparat. On organise sur plusieurs kilomètres une manifestation. Ce sont les membres du Politburo qui prennent la tête de cette manifestation. Le secrétaire général est évidemment en tête. Et au fil des années, on va en fait obliger des brigades, c'est-à-dire des groupes d'ouvriers ou de venir à cette manifestation pour faire non. Et donc, on compte vraiment en dizaines, parfois centaines de milliers, les personnes qui sont présentes à cette manifestation. Donc là, la procession atteint le cimetière, une tribune est installée, et donc des discours vont être tenus, et qui, évidemment, chaque année, sont différents selon l'actualité. Alors, c'est évidemment très intéressant parce que dès 1946 et dans les années 50, la RDA est en recherche de légitimité, essaie de construire un petit peu sa légitimité aussi d'un point de vue historique. Et évidemment, en 1946, c'est l'année où en RDA va avoir lieu une fusion forcée entre le KPD, le Parti communiste, et le SPD, les sociodémocrates, deux partis qui se sont recréés au lendemain de la chute du national-socialisme. Et évidemment, célébrer la mémoire de Rosa Luxembourg en 1946, au moment où on finalement supprime le Parti social-démocrate pour créer un parti unifié, mais qui sera évidemment dirigé très fortement, de manière très autoritaire par les communistes, c'est une manière de dire que finalement nous avons réussi à dépasser la guerre fratricide entre sociodémocrates et communistes en créant un parti unifié des ouvriers. Donc ça vient accréditer, si vous voulez, cette thèse de l'unification des ouvriers autour du parti du SED, donc le parti qui sera le parti dominant en RDA.
Alors, dans la pensée de Rosa Luxembourg, on peut trouver des éléments très subversifs au regard des doctrines d'Allemagne de l'Est, du communisme défendu par l'Allemagne de l'Est, notamment sur la question de la spontanéité des masses, qui évidemment n'a plus grand-chose à voir avec l'État communiste allemand tel qu'il est construit. Est-ce qu'on ne sélectionne pas aussi, au sein de la pensée de Rosa Luxembourg, ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrangerait moins ?
Alors tout à fait, c'est-à-dire que le SED, donc le Parti communiste d'Allemagne de l'Est, veut récupérer l'héritage de Rosa Luxembourg, mais cet héritage est difficile à assumer entièrement. Alors en fait, en 1951, on va publier non pas les œuvres complètes, mais des œuvres choisies de Rosa Luxembourg. Et la même année, paraît une biographie de Rosa Luxembourg, où finalement l'argument de l'historien est de dire que Rosa Luxembourg est certes une martyre, une femme combattante, une oratrice et une femme convaincue, qu'il faut lui rendre hommage, mais que d'un point de vue théorique, elle ne peut évidemment pas concurrencer un Lénine ou un Staline. Et donc, on lui reconnaît des erreurs, en fait, d'un point de vue théorique. Donc en fait, c'est ainsi dans les premières années que la RDA, du moins officiellement, va récupérer cet héritage tout en ne l'assumant pas complètement, mais on met ça sur le compte finalement de son incompétence théorique. Alors, les textes qui ne sont pas publiés, qui sont les plus subversifs, et notamment un texte qui va connaître un grand succès en RDA dans les milieux de l'opposition des années 50 jusqu'à la révolution de 1989, c'est l'écrit sur la révolution russe. Donc ce texte n'est pas officiellement accessible en RDA, mais il va circuler sous le manteau. Je rappelle que jusqu'en 1961, le mur n'existe pas et que les frontières sont encore très perméables. Et donc, on peut faire circuler des écrits, hein, puisque le texte est accessible en RFA. Et voilà, il est connu. Et dès les années 50, des opposants à la mise en place de la dictature en RDA vont extraire des extraits de ce texte et les distribuer sous forme de tracts.
Oui, parce que alors, Rosa Luxembourg a eu très rapidement un regard critique sur cette révolution de 1917.
Voilà, elle a eu un regard critique et elle met en garde en fait le pouvoir des bolcheviks en leur disant « mais méfiez-vous de ne pas substituer le pouvoir... au pouvoir tsariste, le pouvoir d'une minorité. N'oubliez pas que la dictature du prolétariat, c'est la dictature de la masse. » Et donc, elle va mettre en garde, en fait, les bolcheviks, ou elle a une analyse critique, en tout cas, sur le fonctionnement après la Révolution. Et donc, elle écrit, il y a des écrits ou des passages qui sont subversifs, évidemment, où elle revient sur la liberté de la presse, la liberté de réunion, et où elle affirme en fait que ces valeurs, ces droits ne doivent pas être bafoués au nom de la révolution. Alors, c'est cette fois-ci de nouveau ambivalent, parce que la réception qu'ont fait les opposants ou les résistants est-allemands des années 50 aux années 90... est-elle aussi tronquée en quelque sorte, parce qu'ils vont transformer Rosa Luxembourg à partir de quelques citations en une socialiste démocrate, ce qu'elle n'était pas non plus. Rosa Luxembourg a aussi toujours souligné que la violence était un moyen légitime pour arriver à la révolution, et donc elle n'est finalement pas la démocrate que les opposants veulent présenter. Donc, il y a de nouveau cette distorsion de l'héritage ou de la pensée de Rosa Luxembourg chez les opposants. Finalement, là où elle a le plus de succès, c'est dans le courant des socialistes réformistes, qui donc sont présents tout au long de l'histoire de la RDA et qui se manifestent le plus vivement dès 1956. Et donc, dans des écrits théoriques d'opposants, on trouve des références régulières à Rosa Luxembourg.
Et du côté de l'Allemagne de l'Ouest, les traces sont peut-être plus ténues, mais l'image de Rosa Luxembourg peut-être plus facile à accepter, justement dans sa critique du bolchevisme. Il y a ce film de Margaret von Trotta qui sort en salle en 1986. Quelle représentation de Rosa Luxembourg peut-on y voir, Hélène Camarade?
Oui, alors ce film est un film qui arrive finalement assez tard, hein, puisque la réception de Rosa Luxembourg est une réception internationale de toute façon, et sa pensée a nourri beaucoup de communistes, et évidemment aussi en Allemagne de l'Ouest. Le film de Margaret von Trotta s'inscrit dans une lignée de films que Margaret von Trotta entend faire sur ce qu'elle appelle les femmes fortes. Donc, on le sait, elle a fait un très beau film récemment sur Hannah Arendt. Donc, le film sur Rosa Luxembourg s'inscrit dans cette suite, mais c'est peut-être esthétiquement pas le plus réussi. En revanche, cette mise en avant donc de sa vie de femme aussi, hein, puisque c'est important pour Margaret von Trotta de ne pas parler que de la théoricienne, mais aussi de raconter sa vie, nous amène en fait à constater que Rosa Luxembourg est aussi une figure importante pour les féministes dans le monde. Et encore ici, on peut se demander si il n'y a pas une distorsion ou une exagération de sa pensée.
C'est peut-être la manière la plus facile, la plus aisée, la plus simple de s'emparer de l'héritage de Rosa Luxembourg, de la considérer comme un parcours de femme exemplaire au tournant du 19e et du 20e siècle, qui a défendu à la fois son droit à étudier, son droit à aimer qui elle souhaitait, son droit également à vivre là où elle le souhaitait, Hélène Camarade.
Oui, tout à fait. C'est une femme libre qui est à la croisée de multiples persécutions, hein, puisqu'elle est aussi d'origine juive. C'est une femme, elle va aussi subir les discriminations des femmes à l'époque. Et c'est pour ça qu'elle prône effectivement le droit de vote pour les femmes. Elle va... En revanche, à l'intérieur de son parti, systématiquement refusait d'être reléguée aux questions féminines, et en disant non, je suis économiste, je suis spécialiste d'économie et je ne veux pas être reléguée finalement à ces questions-là, un argument que l'on entend souvent aussi tout au long du XXe siècle. Donc c'est vrai que c'est un parcours... Alors aussi très court, hein, fulgurant, puisque cet assassinat vient couper court à une carrière qui aurait pu se poursuivre. Et cette situation, enfin cet assassinat là, l'élève au rang de martyr et ensuite au rang d'icône socialiste dès le début de la République de Weimar.
Et que reste-t-il peut-être des... parce que Rosa Luxembourg nous a laissé de très nombreux écrits, que reste-t-il des slogans, de cette pensée réduite à quelques citations, bien pratiques pour se réclamer d'un penseur, d'un auteur, d'une femme politique telle que Rosa Luxembourg. Que reste-t-il dans les discours politiques que l'on pourrait déceler comme étant un héritage de Rosa Luxembourg, Hélène Camarade?
Alors il y a une phrase que les opposants de RDA ont utilisée dans les tracts et dans les pancartes, les banderoles, avec une grande régularité, c'est la phrase « la liberté, c'est toujours la liberté de ceux qui pensent autrement ». Donc, en fait, elle explique que, dans ce passage-là, finalement, qu'il faut considérer la liberté de celui qui est différent pour atteindre une liberté. Et qu'on ne peut pas considérer que sa propre liberté. Donc, c'est toujours l'idée de mettre en garde la minorité qui détient le pouvoir. Et donc, cette phrase, évidemment, qui est une magnifique phrase, qui invite à la tolérance, au respect d'autrui, est une phrase... à laquelle on peut facilement s'identifier. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'après la réunification, donc les manifestations et les processions autour du 15 janvier se poursuivent en Allemagne, mais ce sont désormais les anciens communistes de RDA, donc ceux du SED, qui subissent finalement la vindicte un petit peu... à l'époque, on découvre l'ampleur de la Stasi, etc. Et qui, eux, vont se réclamer de cette citation et dire « mais finalement, maintenant, ceux qui pensent autrement, c'est nous ».
Et aujourd'hui, dans le paysage politique allemand, peut-être même européen, Hélène Camarade, peut-on déceler des traces de la pensée de Rosa Luxembourg dans certains discours, dans certaines campagnes électorales?
Alors, le paysage politique allemand... est complexe, mais effectivement, on revient systématiquement, ou on cite systématiquement la pensée de Rosa Luxembourg, notamment dans le parti Die Linke, la gauche, qui est issu de différents remaniements, et où on s'inscrit dans cette tradition de manière très vivace. Alors, c'est au point que, au moment des commémorations du 15 janvier, on va avoir plusieurs fractions qui vont se disputer finalement l'héritage de Rosa Luxembourg. Si bien que parfois, on a une manifestation au cimetière de Friedrichsfeld, là où elle est enterrée, et en même temps une autre manifestation dans un autre cimetière plus traditionnel, a recueilli les dépouilles de combattants. Et on va avoir une double manifestation en l'honneur de Rosa Luxembourg, parce que finalement, ces vues-là sont irréconciliables.
Merci Hélène Camarade.
Merci à vous.
Merci à Sandrine Cotte et Hélène Camarade. Prise de son, Alexandre Dang. Mixage, Éric Boisset. Avoir raison avec Rosa Luxembourg, une émission d'Anaïs Quien, réalisée par Séverine Cassard.